Europe 1 Sport, le studio des légendes.
Les légendes sont là, les personnalités du sport, le studio des légendes avec Jean-Claude Perrin, Guy Roux, Charles Villeneuve, Dominique Grimaud et Charles Bietri. Première thématique pour nos légendes, pour le studio des légendes, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Est-il l'entraîneur moderne idéal? Je vous pose la question en premier tout naturellement, Guy Roux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que pour vous c'est le prototype parfait, le Big Jim de l'entraîneur aujourd'hui?
Alors, je partage entièrement ce que vous dites, sauf le dernier mot.
Lequel, Big Jim?
C'est le prototype d'un très bon entraîneur. Mais il n'a rien inventé qui n'ait déjà été utilisé depuis, enfin au moins que moi je suis le football, c'est-à-dire Albert Batteux, par exemple, ou Jean Snella, pour parler d'il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'il est très psychologue, il a réussi à établir des très bonnes relations avec ses joueurs, il évite les embûches quand il y en a, comme Rabiot, ce n'est pas de son fait. Ensuite, il est audacieux dans le domaine tactique. Bon, maintenant, le domaine physique, il est préparé par d'autres, mais enfin, sous sa direction. Donc, je dirais, c'est un très bon entraîneur, semble-t-il. Encore faut-il voir ça sur plusieurs saisons, parce que est-ce que Comboiré, qui fait des équipes mal classées, n'est pas aussi bon que lui?
Donc en fait pour vous, c'est pas un entraîneur moderne, c'est un bon entraîneur qui aurait très bien pu diriger à votre époque, Guy, par exemple.
Ah oui, il aurait été forcément dans les très bons, mais nous avions par exemple Jean-Claude Sodeau, il aurait été au niveau de Jean-Claude Sodeau.
Sur le management, Charles Bietri, il est quand même différent Thomas Tuchel, parce qu'il a la gestion des fameuses stars, il a compris par exemple que Neymar était le joueur le plus important de son équipe et il l'a mis tout de suite dans les meilleures dispositions.
Ouais, je pense que mon petit-fils de 7 ans aurait compris qu'on ne traite pas Neymar comme... mon copain Romain Danzé de Rennes. Je veux dire qu'il faut laisser de la liberté. Ça, c'est une gestion humaine. Ce n'est pas pour ça qu'il est un grand entraîneur, parce qu'il a compris que Neymar, il fallait le laisser 2-3 jours s'il avait envie de décompresser. Il ne fallait pas lui mettre des barreaux aux pieds et des menottes aux mains. Non, je pense qu'il a d'immenses qualités. Je pense qu'il est un peu tôt, pas pour faire le débat ce soir, parce que c'est toujours des débats intéressants, mais qu'il est quand même un peu tôt pour le juger. Parce que pour le moment, il y a une défaite contre Guingamp en Coupe de la Ligue à Paris. Ça ferait un petit peu une tâche. Il n'a pas eu de problème dans le management de ses joueurs, sauf qu'il y a quand même le cas Rabiot qui existe. Et puis, en Coupe d'Europe, il faut se souvenir que Emery, il a été éliminé par Barcelone et le Real Madrid. Bon, pour le moment, le PSG n'a encore pas rencontré le Barcelone et le Real Madrid. Il est séduisant. Pour moi, c'est un immense séducteur. Il nous fait tous ont envie de le connaître, de parler, d'aimer tout ce qu'il fait. Après, moi j'attendrai, comme dit Guy, 2-3 saisons. C'est difficile à juger un entraîneur en plus. C'est très difficile.
Ouais. Mais il a la classe, Charles Villeneuve. Il a de l'élégance. Et ça compte aussi dans le mode de communication aujourd'hui dans le football qui est capital.
Non, mais je crois que tous ici, autour de cette table et avec Guy, on a un a priori favorable. Mais on n'a qu'un a priori favorable. Moi, je rejoindrai Charles Bietri. Il a pour modèle Pep Guardiola. Mais Pep Guardiola, il a un palmarès exceptionnel. Donc on verra bien s'il rejoindra complètement son modèle, notamment sur le plan du palmarès. Et là, il faut plusieurs années là-dessus. D'autant qu'il n'a pas de pression en ce qui concerne le management du PSG. Sincèrement, au niveau du championnat de France... Quelle pression il a réelle avec
cette équipe. C'est la Ligue des Champions, Charles Villeneuve, où il a la pression.
Il a 17 points d'avance déjà, avec un match en retard, il en aura peut-être 20. Donc, il n'a pas une pression excessive. Au niveau de la Champions League, de la Ligue des Champions, il a commencé par gérer moyennement son affaire contre Liverpool, qu'il a perdu à Liverpool, et puis aussi à Naples, à domicile. Bon, il s'est rattrapé avec une très bonne maîtrise du match retour contre Liverpool et surtout une maîtrise formidable contre Manchester, qu'il a battu, enfin que l'équipe a battu 2-0, le match retour le 6 mars, très bientôt à Paris. Bon, donc pour l'instant, a priori favorable. On sait qu'il a une réputation, un style, mais il a une particularité quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'aussi bien à Dortmund qu'à Mayence, il ne s'est pas entendu avec une partie de l'entourage du club, l'entourage sportif, et il est parti, il a quitté. C'est-à-dire que quand il n'est pas d'accord, c'est un homme qui s'en va. Ça, c'est une particularité. Je ne sais si on retrouvera cette particularité à Paris. Mais enfin, quand vous discutez avec un certain nombre de joueurs, deux ou trois, pour ma part, et même un ancien joueur qui fait partie du staff, manifestement, ça ne va pas du tout avec le directeur sportif, le Portugais Antero. Donc, il y a quand même un peu de grincement.
Il ne s'entend pas avec Antero Henrique. Il a attendu longtemps d'ailleurs un milieu de terrain pour se renforcer pendant la Ligue des Champions. On sait qu'il peut y avoir des tensions, quelques scissions. Est-ce que néanmoins, vous avez l'impression, Dominique Grimaud, que Thomas Tuchel a des failles ? On a senti parfois un peu d'agacement, voire d'énervement sur certaines décisions, alors qu'en général, il est très flegmatique, très sûr de lui, très séduisant, en effet, comme le disait tout à l'heure Charles Vitry. Est-ce qu'il a des failles ?
Les failles, j'en sais rien. En tout cas, il a montré de l'impatience ces dernières semaines lorsqu'il a voulu absolument que le PSG se renforce d'un, voire de deux milieux de terrain. Et on sait que le PSG a pris Paredes dans les dernières heures. Mais pour le reste, moi je trouve que, comparativement à d'autres, en tout cas son prédécesseur, je trouve que c'est un homme qui a priori me semble crédible. Il est crédible aux yeux du public, me semble-t-il, aux yeux des supporters, et surtout, et notamment aux yeux de ses joueurs. Et ça, c'est un argument de poids. Il est rassurant, il est sécurisant, il porte une espèce de charisme et chacun peut le voir. Donc c'est un atout pour moi non négligeable. Maintenant, je rejoins Egui lorsqu'il parle de Snella et Bateux, et notamment Bateux, parce que si Bateux, bon, nos jeunes auditeurs évidemment ne connaissent pas Albert Bateux, mais si Albert Bateux avait connu, était né dans notre époque d'aujourd'hui, il aurait parfaitement navigué sur le web. Il aurait été un communicant exceptionnel.
Mais il n'aurait pas joué avec le WM quand même.
Non, il aurait pas. Mais je veux dire, Albert Bateux était un homme tout à fait extraordinaire dans le domaine du football français et international. Et puis voilà, donc voilà. Et pour le reste, attendons. Attendons, c'est vrai que Tourelle a battu au match aller une équipe de Manchester qu'on avait peut-être un peu surévaluée, surcotée. Le match retour, il est d'ores et déjà plié. Attendons les quarts de finale pour se faire un avis plus objectif du personnage, mais qui, en tout cas, et jusqu'alors, moi, me séduit plutôt.
Ouais, c'est vrai, on a tous envie d'être son copain, en fait, de papoter avec lui, d'en savoir un petit peu plus. Mais il y a aussi ce que l'on peut déceler, Jean-Claude Perrin, chez l'entraîneur, d'un point de vue athlétique, tactique. Tout à l'heure, Giroud semblait dire qu'il n'a rien inventé. Moi, j'avais intitulé ce thème en disant, est-ce que c'est l'entraîneur moderne parfait ? Pour vous, est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Est-ce qu'il insuffle quelque chose de particulier ? Est-ce que vous avez réussi à détecter quelque chose chez lui ?
Pour l'instant, il n'a déjà pas fait de faute. Je lui donnerai un point favorable. Maintenant, juger un entraîneur après seulement la moitié du championnat et après un laps de temps si court, c'est absolument impossible. Il faudrait le voir travailler sur un plus grand nombre d'années. Il a apporté une stabilité dans certains secteurs. Évidemment, il n'a rien inventé. Hein. Depuis l'Antiquité, les entraîneurs procèdent toujours de la même façon, hein, avec les bons ou avec les mauvais. En général, c'est un trait d'union entre les générations. Et je pense où il a été bon, c'est qu'il n'a pas fait de faute. Et surtout, il a tenu compte beaucoup de l'entraînement invisible. C'est-à-dire qu'il a laissé s'exprimer à la masse de talents qu'il a entre les mains, et ils sont nombreux, il y en a une vingtaine, pour habilement être en tête du championnat avec un nombre de points important, qu'il met à l'abri de toute critique. C'est un séducteur sur le terrain et à l'entraînement. Mais surtout, il a été très bon dans l'entraînement invisible, dans une foule de petits détails qui font la différence face aux ennuis. Et là, pour l'instant, il ne les a pas connus. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment il va réagir quand le vent va forcir, quand les résultats vont être difficiles. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup de blessés. Il en a un de taille.
Neymar, Cavani, il s'est bien débrouillé quand même avec l'absence de Neymar et de Cavani.
Oui, c'est très habile.
L'air de rien.
Et de toute façon, on le met en présence d'un effectif qui est là pour ça. Donc, ce qu'on n'aurait pas compris dans un premier temps, c'est qu'il perde avec de tels moyens. Et ça, on ne lui aurait pas pardonné.
Ce qu'on peut lui reconnaître, Giroud, en tout cas à Thomas Tuchel, c'est que c'est un bon directeur des ressources humaines. dans le management, dans les relations avec les joueurs, il réussit là où ses prédécesseurs peut-être ont échoué. Déjà.
Oui, c'est un bon psychologue. On peut aussi noter que à son actif, par rapport à certains de ses collègues, notamment celui de Monaco, qu'en quelques mois, il se débrouille très bien oui. en français.
Voilà, très bonne remarque.
Alors qu'on devrait exiger des entraîneurs du championnat qui parlent français avant d'entrer. Mais lui, en quelques semaines. Et puis, il a mis au point une technique, vous avez dû la remarquer. Il a son traducteur hors du champ. Et quand il lui manque un mot, soit pour répondre, soit pour comprendre, il tourne légèrement la tête, le traducteur lui donne, c'est une habileté, c'est un type intelligent.
Ce qui ça pourrait être valable d'ailleurs pour beaucoup d'entraîneurs français, Guy, ça. Ouais.
Ah ben, à l'inverse,
ou un traducteur.
À l'inverse, oui. Ah, vous voulez dire dans le championnat
oui,
de France.
Oui, dans le championnat de France, oui.
C'est le traducteur de Bielsa, Charles Bietri, on le voyait tout le temps.
Oui, mais
et on
parce
souffrait
que
avec lui d'ailleurs.
Parce que Bielsa ne connaissait pas un seul mot de français, et ne voulait pas le connaître. Ouais. Donc le traducteur était devenu très très important, trop important même vis-à-vis de Bielsa, parce qu'il n'était plus seulement un traducteur, il était beaucoup plus.
Est-ce que vous pensez, Charles Villeneuve, qu'il peut aussi continuer à faire progresser des joueurs? C'est vrai qu'il est l'un de ceux qui arrive à donner du temps de jeu à des jeunes joueurs, et je trouve qu'il gère bien le cas Mbappé. Mbappé qui est un phénomène, qui a encore battu un record, 51 buts à peine 20 ans en Ligue 1, ce qui est exceptionnel. La réaction de Tourelle hier soir après ce record battu, c'est de dire ouais, il a marqué 2 buts dans le match.
Il aurait pu en marquer 6.
Ouais. Mais ça, c'est un bon manager.
C'est la question. Je ne sais pas si mes camarades ici se posent cette question. Moi, je me la pose souvent parce que le nombre de buts qu'il ne marque pas, en tout cas, il ne cadre pas Mbappé, est quand même assez important. Je trouve que le déchet hier, justement, j'ai vu ce match. J'étais au stade, etc., comme d'habitude. Mais j'ai trouvé que, quand même, il en ratait un paquet. Et
à
je me demandais
ans,
même s'il allait.
À 20 ans. À 20 ans.
Alors, c'est la remarque, justement, ouais. tu me l'enlèves. Il a 20 ans. Et donc, bien sûr que son espoir de progression est réel et que Tourelle est dans son rôle de gestion des égos et des humeurs de vestiaire de ses joueurs quand il dit qu'il aurait pu en marquer plus. Parce que, justement, il est sur cette trajectoire-là pour essayer de monter le niveau de buteur de Mbappé. Mmh. C'est vrai qu'il n'a que 20 ans, on l'oublie tout le temps.
Bien sûr. Tourelle peut-il faire progresser Mbappé? Mbappé, il est tellement au-dessus de Dominique Grimaud qu'on se demande, enfin, il est plus
c'est
fort que la Ligue 1 tout seul.
Mais c'est donc, un phénomène.
Est-ce qu'un entraîneur peut faire progresser un garçon comme ça?
Oui, je peux. Oui. Je crois. Mais est-ce que Mbappé, Charles le disait, il a 20 ans, il a un potentiel absolument gigantesque. À qui peut-on comparer? Des chiffres sont sortis ces derniers temps. Il est en avance sur Ronaldo, il est en avance sur Léo Messi, il est en avance sur tous. Donc, alors pour revenir à la question, Mbappé, il progressera et ça deviendra, à mon sens, le meilleur joueur du monde assez vite. Je trouve que, en revanche, Tourelle a fait progresser à Marquinhos. Un poste totalement, au départ, incertain pour Marquinhos, qui est un axial, un défenseur axial, et qu'il transforme en 6. Et avec quel succès? Je trouve qu'il fait progresser Verratti. Je trouve Verratti meilleur ces dernières semaines. Qu'il
mais j'ai
n'a...
trouvé excellent hier. Bon.
Il est
excellent.
Tout à fait très bon. Il
oui.
est bon.
Plus sobre que d'habitude.
Voilà.
Déjà.
Donc le seul petit problème, à mon avis, de Tourelle, mais qui est peut-être un problème plus global, et du PSG, a trait, me semble-t-il, au gardien de but. Je ne suis pas sûr qu'entre Areola et Buffon, ça soit une bonne décision de faire jouer l'un puis l'autre. Et j'ai même tendance à dire, je vais peut-être être très sévère, que c'est peut-être le poste à pourvoir pour le PSG et que si demain il y a une urgence, à mon avis, le PSG doit trouver un gardien. Malgré toute la qualité d'un Buffon et malgré tout le potentiel qu'a Alphonse Areola, je pense que les deux ne s'imposent pas vraiment.
Il aurait dû faire un choix.
Oui, peut-être.
Non, mais moi. Moi, non, parce que là, j'interviens, parce que c'est un peu mon protégé à Areola, puisque je l'ai protégé contre Chelsea, qui voulait donner à sa mère, qui est une femme de ménage philippine, elle est venue avec son fils, d'ailleurs, il avait 15 ans, 550 000 euros. C'était une manne extraordinaire pour le prendre au centre de formation de Chelsea. On l'a protégé avec l'aide, d'ailleurs, de la mairie, etc. Mais je ne pouvais pas lui donner un salaire. Compte tenu du fait, ça Charles connaît bien, et toi aussi Dominique, vous qui avez été dans les structures de gestion et qui l'êtes toujours pour Charles, du foot à partir, je pouvais le faire à partir de 16 ans. Je ne pouvais pas le faire tout de suite. Et on l'a quand même, et c'est un garçon extrêmement bien élevé, très sympa, très gentil, on l'a protégé. Il a un potentiel formidable, mais sauf qu'à le faire jouer comme ça, par parenthèse, à très non discontinu, petit à petit, évidemment, il faut chaque fois qu'il se remette à fond dans l'affaire, dans le match, etc., sachant que le prochain match, il ne jouera pas. Donc, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. C'est difficile de progresser.
Mais il a plus qu'un potentiel, Charles, parce que je sais que c'est ton protégé. Moi, je pense qu'il est déjà très fort.
Oui.
Déjà très fort.
Et que, mais j'ose pas le dire,
qu'il
si
a
tu veux,
sa
je préfère
que
tu le dises.
Très largement au PSG, quand on compare joueur après joueur, ce qui est toujours, ne veut pas dire grand-chose, mais il peut très bien être le gardien du PSG dès maintenant.
Pour toi, il est devant Buffon.
Il est devant Buffon. Buffon, c'est un autre... Moi, je ne trouve pas stupide complètement qu'il change de temps en temps, parce que je pense que Buffon va énormément apporter à tous les gardiens du PSG. Et donc, il ne faut pas en faire simplement l'entraîneur des gardiens dans son coin sur le quatrième terrain avec les trois
buts. Non, mais c'est un exemple quand même.
Il faut qu'il soit au contact des autres joueurs pour apporter ce qu'il peut apporter, Buffon. Et donc, quand il joue un peu, bah, Areola, il le voit jouer. Lui, il est tout prêt aussi. Quand il est à l'entraînement, il est tout prêt. Autrement, on n'est pas tout près de son entraîneur de gardien. On est tout près d'un autre gardien. Et Areola, pour moi, il est au niveau de Buffon aujourd'hui. Après, il fera peut-être pas la carrière qu'a fait Buffon, qui est
bon,
extraordinaire.
Peut-être, oui. Mais Charles, tu vois, quand tu discutes avec Areola, il dit ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il a besoin de Buffon et il apprend beaucoup. Et en plus, Buffon a une sorte de comportement extrêmement décontracté et de grand frère, mais sans ostentation par rapport à Areola. Et ça, il lui en est très reconnaissant sur ce plan-là. Donc, c'est vrai que le contact humain, en tant que gardien et pas entraîneur de gardien, c'est-à-dire distancié, apporte beaucoup à Areola. Et il le dit spontanément, il ne le dit pas avec emphase.
Un petit mot pour conclure sur ce dossier de Jean-Claude Perrin. Vous vouliez intervenir sur la stratégie Tourelle ou sur le cas des gardiens, Jean-Claude ?
Le cas des gardiens, pour moi, le gardien, on ne doit pas changer sans arrêt. C'est une erreur. En ce qui concerne Areola, c'est un gars qui peut progresser, qui va progresser physiquement. Et puis, si on le fait plus jouer, ça sera un des meilleurs. Il pourra même inquiéter les meilleurs en équipe de France.
On se retrouve dans un instant, le studio des légendes. Guy Roux, Jean-Claude Perrin, Charles Bietri, Charles Villeneuve, Dominique Grimaud, notre nouvelle émission sur Europe 1, pour un nouveau thème dans un instant.
Europe 1 Sport, le studio des légendes. Lionel Rousseau.
Le studio des légendes sur Europe 1, Charles Bietri, Charles Villeneuve, Dominique Grimaud, Guy Roux, Jean-Claude Perrin, des légendes, des personnalités qui ont marqué le sport et qui connaissent le sport et le foot et peut-être l'AS Monaco. L'AS Monaco qui va jouer ce soir, on le sait, on suivra d'ailleurs ce match sur l'antenne d'Europe 1 contre l'Olympique Lyonnais, 21h pour le coup d'envoi, mais qui a eu des débuts difficiles, qui s'en sort un peu, mais qui est 17e aujourd'hui, avec seulement 22 points pour une équipe qui a été championne de France, très loin en Ligue des Champions, avec un très gros budget. On se demande pourquoi l'AS Monaco a commis tant d'erreurs, alors qu'on avait le sentiment que c'était quand même le parangon de la réflexion d'un système bien huilé, bien précis, avec des joueurs qui vont et qui viennent, et puis surtout une réussite sportive. Quel est votre point de vue, Charles Villeneuve, pour vous ? Pourquoi l'AS Monaco s'est à ce point planté cette saison ?
D'abord, le modèle de Monaco tel qu'on l'a vécu, c'est un modèle boursier. C'est un modèle de trading, de trader. On vend au maximum de toute façon ce qu'on a comme qualité pour récupérer, puisque il n'y a aucun, si vous voulez... Il n'y a d'abord pas de bassin de population, il ne faut pas l'oublier, à l'inverse de Lyon, on va parler tout à l'heure de Lyon. Il n'y a pas non plus, à l'exception évidemment sur le plan fiscal, de quelques réductions fiscales, mais ça n'est pas suffisant. Et puis évidemment, il n'y a pas de stade. À partir du moment où il n'y a pas de population, il n'y a pas de stade non plus. Les recettes, où aller les chercher sur le plan, si vous voulez, du remplissage des stades. Et ce modèle boursier est arrivé, ça peut durer. Vous pouvez de toute façon bénéficier de ce modèle sur une durée très courte, mais pas sur une durée très longue. Et tout le monde a dit à juste raison que c'est les mauvais résultats qui ont fait que le principal actionnaire, qui a 70% du club, a licencié Vadim Vassiliev. Oui, c'est vrai. Il a licencié toute son équipe avec une donnée très importante, l'interférence judiciaire. Il ne faut pas oublier que Ribolovlev a été mis en examen pour corruption et pour trafic d'influence. Et que Vadim Vassiliev a essayé, il y a un ressort qui s'est cassé dans ses rapports entre Ribolovlev et le prince Albert, le patron de la maison de Monaco. Et ce ressort, il a voulu le réparer en introduisant dans l'organigramme le fils de Stéphanie, Louis Ducruet, qui est aussi le neveu du prince Albert. Et ça, compte tenu du fait que le directeur général adjoint est Bruno Scropetta, qui a été mon collaborateur non seulement à la Direction générale des sports, mais aussi au PSG, bien évidemment, j'ai beaucoup dialogué avec lui. Ça a beaucoup compté dans la semaine où il a hésité, Ribolovlev, et il a fini par évincer toute l'équipe de Vassiliev. Cette affaire s'est ajoutée évidemment au mauvais résultat, au fait qu'on a fait venir le va-et-vient des entraîneurs, etc. Et puis aussi, évidemment, il ne faut pas oublier que les 537 millions d'euros qu'ont rapporté tous les transferts, le Ribolovlev ne peut les toucher avant 7 ans. Il ne faut jamais oublier ça, et notamment les 200 millions d'euros de bénéfices de ces transferts.
Il y a un échéancier.
Cet impact. Il y a un échéancier.
Il y a une convention signée avec la principauté.
Plus cette affaire judiciaire, plus cette interférence, si vous voulez, dans l'organigramme, a fait qu'il a pris cette décision-là. Donc c'est un ensemble. Il ne faut pas le réduire simplement, si vous voulez, à l'échec sportif. Justement, à l'échec sportif.
Uniquement, purement. Voilà. Même si Charles Bétry, on peut quand même s'interroger. On se sépare d'un entraîneur qui a réussi pendant quelques saisons déjà à obtenir un titre de champion de France devant le PSG, mais parfois à faire du bricolage parce qu'il a vu parfois débarquer des joueurs dont il ne connaissait même pas l'identité un matin à l'entraînement. Je parle de Jardim. On s'en sépare, on fait venir Thierry Henry. Ils se sont plantés avec Thierry Henry, peut-être trop jeune, c'était pas le bon moment, qui sait. Et puis Jardim qui revient avec un salaire plus important. En termes de gestion, c'est un peu n'importe quoi quand même.
Ah, mais de toute façon, Monaco, je dirais, s'il y a un mot qui va bien avec Monaco, mis à part le maillot et la couleur des maillots qui en font les plus beaux de France et peut-être d'Europe, et bon, il y en a deux, trois en Amérique du Sud, ils sont peut-être plus jolis. Autrement, le mot qui, moi, me vient immédiatement à l'esprit, c'est opaque. La gestion de ce club est opaque. Elle a toujours été opaque. Pas seulement, Charles vient de très bien l'expliquer, parce qu'il y a des dirigeants qui sont mis en examen, qui ont eu pas mal de problèmes déjà, mais parce que la façon même dont ils ont fait leur recrutement, enfin, si on peut appeler ça un recrutement, pour moi, il y a eu des choses hallucinantes. On va le voir ce soir. Ce soir, par exemple, je pense qu'il va y avoir, je ne connais pas encore la compo de l'équipe, zéro joueur qui ont joué le match aller. Zéro joueur qui vont jouer le match aller contre Lyon et 11 joueurs nouveaux qui vont débuter. Bon, déjà, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et même qu'ils aient le droit, que les règlements leur permettent d'engager 8 nouveaux joueurs au mercato d'hiver, est quelque chose d'assez exceptionnel. Après, Thierry et Henry, il est arrivé avec le groupe qu'il y avait. C'est-à-dire ce groupe qui a été fait de jeunes achetés à prix d'or. À prix d'or. Il y a des jeunes qui ont été achetés 20 millions d'euros à 18 ans. 20 millions d'euros. Et à 18 ans, quand on prend un jeune, c'est pas sûr qu'il va devenir Mbappé à 19 ans. C'est pas sûr du tout. La preuve, c'est qu'ils en ont à peu près la moitié qui ne viennent rien du tout pour le moment. Qui deviendront peut-être. Et donc, ce recrutement, Thierry Henry, il a payé ça. Thierry Henry, il est bon entraîneur, il est mauvais entraîneur. J'en ai aucune idée. C'est un jeune entraîneur. On va pas dire qu'il connaît pas le foot. Il est arrivé avec un groupe avec lequel on ne pouvait rien faire. Ni lui, ni Jardim, qui a échoué.
Plus beaucoup de blessés aussi quand il est arrivé.
Les blessés, ça fait partie aussi du boulot des entraîneurs.
Non, mais c'est vrai, c'était un groupe exsangue.
Ah, totalement. Mais on aurait pu prendre Tourelle, l'idole du moment. Ouais. Moi, j'aurais voulu le voir avec l'effectif de Monaco du début de saison. Il aurait fait comme tout le monde. Il aurait fait comme tout le monde. Et il aurait été viré. Comme tout le monde, aussi, d'ailleurs. Non, Monaco, cette année, c'est un ovni dans le football, tellement la gestion a été bizarre, étrange. Mais pour moi, opaque, ils ne peuvent pas être bêtes, ces gens-là. Ils ne peuvent pas être stupides, tous. Ils savaient qu'en prenant 15 nouveaux jeunes et en enlevant 12, ils allaient avoir un problème sportif. Donc, ils avaient d'autres idées en tête qui ont été évoquées par Charles.
Ce n'est pas un système viable, Giroud, pour vous ? Ça ne sent pas le vrai football ? Ce système-là,
c'est une caricature extraordinaire. Le seul défaut de Thierry Henry qu'on peut discerner aujourd'hui et le plus pardonner, c'est qu'il n'a pas fait l'analyse de l'effectif qu'il allait prendre. Autrement, il ne serait pas venu. Il n'avait pas besoin de ça pour manger, donc il ne serait pas venu. Il est venu avec la foi et le cœur qu'il avait de Monaco, où il a été formé et où il a joué, et puis c'est tout. Alors ça, c'est sa seule faute. Après, tout lui a été imposé. J'ai lu dans France Football, je crois, une interview de M. Vadisilev, un papier sur lui, où on disait qu'il avait un pourcentage sur toutes les plus-values. Alors on comprend qu'il ait cherché 20 plus-values cette année.
Oui, on est donc Charles Villeneuve là dans un...
Non mais il n'est pas tout seul, Vassiliev. Le vrai patron, c'est Ribolovlev. Mmh. C'est le président, l'actionnaire principal. C'est son argent.
Alors, mais c'est il délègue quand même,
oui,
Charles.
Oui, mais il délègue, mais vous ne croyez pas qu'il a vendu Bernardo Silva, tous les autres, Bakayoko, et j'en passe. Bon, je ne vais pas tous les citer, Fabinho, etc., Mbappé. Sans l'autorisation de Ribolovlev.
Mbappé.
Bon, Mbappé, bien sûr, et puis pour le dernier, Thomas Lemar. Bien évidemment, c'est d'abord Ribolovlev qui dirige cette opération. Bon, il fallait qu'il rattrape en quelque sorte, qu'il compense son investissement. Mais c'est la seule manière de compenser son investissement, puisque d'accord, il y a une fiscalité avantageuse, mais où est la diversification des recettes? Où est le bassin de population, etc. Donc on sait très bien que ce club, c'est un ovni et c'est une curiosité. Et c'est vrai que, et Charles Bietri l'a trouvé le mot, c'est opaque du début jusqu'à la fin. Bon, et on se demande d'ailleurs quel est vraiment le mobile de fond de Ribolovlev pour mettre autant d'argent sur un club dont on sait qu'il est très difficile de récupérer ses investissements. C'est la question que je me pose. Alors, Vassiliev, il a payé.
Allez plus loin, parce que j'imagine qu'à votre question, il y a peut-être une réponse ou une suggestion ou une sous-réponse.
Moi, j'attends, si vous voulez, la fin des investigations du tandem des juges d'instruction. Parce qu'ils ont cette idée-là.
On entend ça souvent en ce moment sur les antennes. Hein.
Dominique Grimaud, votre sentiment sur la situation de Monaco, qui a toujours été une situation particulière. C'est une équipe aussi qui a...
Oui, sauf qu'il faut avoir un très grand respect pour la formation de l'AS Monaco, qui dure depuis 60 ans, depuis les années 60.
C'est juste.
Souvenons-nous. Ce que Monaco a offert au football français, en internationaux, à l'appel de Yvon Douiz Cossou jusqu'au dernier Kylian Mbappé. Donc n'oublions pas ça. Donc OVNI pour l'AS Monaco aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, pas de projet sportif. C'est une équipe encore qui, il y a 2 ans, nous faisait rêver. Était à 2 doigts, non pas de gagner la Ligue des Champions, mais qui avait tout à fait.
Qui était en demi-finale.
Mais qui était en demi-finale et qui nous faisait vraiment rêver. Créer un groupe, créé, animé par Jardim, quelque chose de très crédible. Et après, ce groupe, cette équipe se délite. Et effectivement, on se demande pourquoi. Pour quel intérêt? Si ce n'est un intérêt personnel.
Oui, non mais Dominique, tu savais très bien déjà au niveau de la demi-finale de l'AS Monaco qu'une partie de ces joueurs allaient s'éparpiller. Il y avait des contacts, il y avait déjà des négociations.
Mais
il suffisait d'en parler avec les principaux agents de la place.
Mais pourquoi? Non, pas embrader, parce qu'ils les ont vendus très bien et très cher. Mais pourquoi se séparer de quasiment plus de la moitié de l'équipe qui était demi-finaliste de la Ligue des Champions? C'est ça, c'est une question, Charles.
Bah, la question, c'est qu'en fait, la performance sportive
était insuffisante.
Aucune espèce d'importance. C'est la vente,
voilà.
C'est le
bandit. Oui, mais la performance sportive a valorisé justement ces joueurs à un tel taux de transfert qu'il en a profité. Parce qu'il fallait récupérer son investissement aussi.
Alors, moi, ce que j'ai lu aussi, pas plus tard que ce matin, c'est qu'effectivement, il y a un bénéfice d'à peu près 200 millions.
D'euros.
Et il y a 50 millions de ces 200 millions qui ont été ou qui vont être investis ou réinvestis dans la construction d'un centre de formation qui verra le jour en 2020. Donc n'oublions pas cela non plus.
Oui,
ça
oui.
compte aussi.
Il pense au futur. Jean-Claude Perrin, votre
sentiment? Non, mais ça fait partie des accords avec le Palais. Hein.
Voilà.
Le réinvestissement d'une partie de l'argent bénéficiaire.
Avec le fameux calendrier des 7 ans aussi pour les dividendes concernant Ribolovlev. Votre sentiment, philosophiquement, ça vous dérange qu'on parle autant d'argent et qu'il y ait des stratégies financières autour des performances sportives d'un club de football?
Où on est très très surpris, même pour les non-spécialistes qui ne connaissent pas comme Charles les méandres de la finance. On est surpris que des choses comme ça puissent se produire. De voir une équipe complètement renouvelée ce soir, c'est à la limite du moral. et je dirais même pour moi, entraîneur, c'est immoral. Maintenant, ce qui s'est passé dans un club qui était stable, avec un très bon centre de formation, de très très bons éducateurs, c'est qu'ils ont découvert que le sport et l'argent pouvaient être un vecteur, comme on le voyait dans le showbiz, de représentation et de plus-value. Mmh. Et ils ont pensé qu'en vendant et en prenant d'autres, on allait pouvoir avoir les mêmes résultats. Mais c'est là où le sport est merveilleux, c'est qu'il n'appartient pas au monde de la finance. Il y a l'humain, il y a un championnat, il y a des adversaires. Alors évidemment, pour ces grands financiers qui ont eu l'habitude à travers le monde de faire des affaires merveilleuses, eh bien là, ils sont tombés sur un os. C'était pas Hollywood, même si on était à Monaco. Et là, ils ont entraîné ce pauvre Henri dans un traquenard.
Ce pauvre.
Ouais.
Ce pauvre.
Non, mais moi je parle pas d'argent, oui. Tu comprends, ouais. Dominique.
Non, il se place sur le plan humain.
Sur le plan humain.
Non, mais tu te rends compte, ce gars-là, ce qu'ils lui ont fait vivre. Oui. Alors évidemment, tous les grands censeurs vont dire oui, à ce prix-là, moi j'aurais aimé. Mais non, voilà un homme qui est marqué. Il n'a pas su où il mettait les pieds, il a été imprudent. Et on lui met tout sur le nez.
Giroud, avec la gestion de Monaco, on est quand même aux antipodes de la gestion d'Auxerre à votre grande époque. On est d'accord.
Ah, c'est sûr que ce n'est pas le même métier.
Ouais. Alors la différence est si grande que ça ?
Non, énorme. Complètement énorme.
D'accord.
Complètement énorme. C'est la gestion d'Andorre et la gestion des États-Unis.
Mais qui sont les États-Unis et qui Andorre ?
C'était mon... Non, ce que je voulais dire, c'est que quand nous étions au sommet aussi, en lutte avec Monaco pour les premières places, ils étaient un peu comme nous. Par exemple, en Gambardella, on a perdu 4-3, je crois, à une attaque Henri Trezeguet. En Gambardella, contre nous, là, ils faisaient du football. Et puis leur équipe, quand c'était Hidalgo et compagnie, c'est pareil. C'était une vraie équipe, un vrai club. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas de supporters. Ils en avaient 3000, mais 3000 fidèles qui aimaient le club. C'est pas rien. Aujourd'hui, les pauvres, enfin, eux, ils doivent continuer d'être pauvres au milieu des riches.
Enfin, 3000, ce n'est pas beaucoup, Charles Vietri, quand même, pour un grand club. Quand va être un grand club européen, 3000 supporters ?
Non, mais dans ce stade-là, qui date de 1980, je crois, si je me souviens bien, c'est pas si mal. Et puis les supporters, ils viennent aussi quand l'équipe donne envie de venir. Alors, cette équipe de Monaco, c'est assez étrange parce qu'on l'a tous aimé. Moi, au fin fond de ma Bretagne, on était supporters de Monaco. On aimait bien. Et à Monaco, ils n'étaient pas supporters de Monaco. Comme si... il les voyait autrement, comme s'il les voyait un autre visage, comme si la principauté, avec l'argent qui y coule, je présume, les repoussait un petit peu. Parce que le supporter de foot, il est pas riche. C'est quelqu'un qui se bat pour travailler et pour gagner sa vie. Alors c'est vrai qu'à Monaco, il y en a sûrement un petit peu moins qu'à Lille ou à Valenciennes.
Les supporters de Monaco vivent peut-être pas tous à Monaco, d'ailleurs. Ils vivent peut-être dans la périphérie autour, à Nice ou dans la région. Le studio des légendes revient dans quelques instants sur Europe 1. Avec Charles Vietri, Charles Villeneuve, Dominique Grimaud, Guy Roux, Jean-Claude Perrin. À tout de suite.
Le studio des légendes. Lionel Rousseau.
Bienvenue dans le studio des légendes avec Charles Villeneuve, Dominique Grimaud, Jean-Claude Perrin, Charles Vietri et Guy Roux. Notre dernière thématique, dernier sujet, l'Olympique Lyonnais, le modèle de l'Olympique Lyonnais, un modèle franco-français à suivre. Je le pose volontairement à Monaco et son propriétaire russe, les Qataris à Paris, même s'il y a des actionnaires étrangers à l'Olympique Lyonnais. Mais enfin, Jean-Michel Aulas est totalement majoritaire. Charles Vietri, votre sentiment ? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier actionnaire, il y a aussi la politique de Jean-Michel Aulas depuis des années. Est-ce que c'est vraiment le club français, franco-français, qui a parfaitement réussi avec ses moyens et avec l'évolution de la concurrence aujourd'hui dans le foot ?
Alors là, je n'emploierai sûrement pas le mot opaque, je dirais à 100% oui. Pour moi, c'est un modèle absolument formidable, avec une réussite fantastique, avec plusieurs paramètres. D'abord, je dirais un des premiers, la stabilité. La stabilité. l'actionnaire est le manager du club et depuis une éternité. Et il n'a pas pris le club
87.
En étant en Champions League, il a pris le club en deuxième division. Il a monté, il a construit avec un équilibre que je trouve formidable, en s'appuyant sur la formation comme tout le monde veut essayer de faire, mais en réussissant à s'appuyer sur la formation. Guy, tout à l'heure, parlait de la Coupe Gambardella, qui est un révélateur de la formation. Ben, Lyon en Gambardella, ils vont peut-être encore la gagner cette année, hein, alors que le PSG a déjà été éliminé, par exemple. Donc, il a, avec un énorme équilibre et avec un recrutement dans ces jeunes aussi, dont la majorité sont des joueurs de la région, ce qui est absolument capital. Parce que les joueurs de la région, ils ont tous réussi. Pourquoi ? Parce que quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, si on est coupé de sa famille, si on est coupé de ses copains, on va dans un monde où on peut échouer à chaque moment. Et donc, quelqu'un, des jeunes du Nord, des jeunes bretons, sont partis à Toulouse, à Marseille, à Chelsea, ou je ne sais pas où, déracinés, et c'est quelque chose d'épouvantable. Humainement, c'est quelque chose d'épouvantable, parce que s'ils échouent, c'est affreux. Lyon, on ne faisait pas ça.
Ce que ne réussit pas à faire le Paris Saint-Germain avec la région parisienne où il y a un énorme potentiel, ou même Marseille sur la région PACA.
C'est pour le Paris Saint-Germain, il y a aussi des explications. C'est parce que leur équipe est d'un tel niveau que si vous êtes parent ou grand-père, c'est les légendes, il va leur expliquer quand même demain en quoi on est des légendes. Hein. Pour expliquer ça à mes enfants, mes petits-enfants, ça va être chaud. Hein. Pour le Paris Saint-Germain, si vous avez un gosse qui joue bien au foot, est-ce que vous allez le mettre au Paris Saint-Germain où il y a 20 internationaux et où il ne jouera jamais ? Non. Ce qui va arriver, avant ce qui est capital, petite incise, c'est que le Paris FC vient d'avoir l'agrément pour faire un centre de formation, maintenant, est en deuxième division, on va le rester sans doute, et donc les gamins de la région parisienne auront une occasion de rester en région parisienne, en contact avec leurs parents, pour progresser. Et c'est ce qu'a su bien faire Jean-Michel Aulas, de faire l'équilibre entre la formation et des joueurs de plus haut niveau. Et puis, il a réussi à faire quelque chose qui est une arme fabuleuse, c'est son stade. Il a un stade à lui maintenant. Les recettes vont être à lui. Moi, je vois à Lille, où Gérard Lopez fait du très très bon boulot dans ce club de Lille. Mais le club n'a pas le stade. La location du stade coûte une fortune pour chaque match. Il faut qu'il y ait 30 000 spectateurs pour que le club ne perde pas d'argent sur un match du championnat. Vous vous rendez compte ? Lui, maintenant, Jean-Michel Aulas, il va ramasser tout cet argent-là. Et pour moi, Lyon va continuer à monter. Lyon qui a quand même été 7 fois champion de France, de suite.
Au passage.
Et un petit creux parce qu'ils sont 3e, ils vont peut-être être 2e dans 15 jours. Et je pense qu'avec ce stade, ils vont revenir tout en haut et que le PSG, tout PSG qui est, dans le rétroviseur, Lyon, ils vont de nouveau le voir.
Le modèle franco-français dont on parle avec l'Olympique Lyonnais, Charles Villeneuve, en fait, c'est le modèle Jean-Michel Aulas. C'est tout simplement sa réussite.
Avec des conditions, quand même. Parce que c'est vrai, moi je suis entièrement... Enfin, il n'y a rien à retirer de l'analyse de Charles Bietri. Elle est parfaitement vraie, exacte, précise. Mais avec des conditions. Tout à l'heure, nous parlions du bassin de population. 1 400 000 habitants dans le bassin de population du Grand Lyon. Deuxièmement, il faut avoir avec soi un groupe industriel et financier extrêmement solide. Parce que quand vous faites des prêts à la banque, quand vous allez construire un stade de 59 000 places, 263, etc., que vous allez évidemment développer toute une activité hors stade et dans le stade, quasiment comme une entreprise de spectacle, puisque c'est ça qu'il est en train de réussir et de faire. Parce que les recettes, simplement, si vous voulez, de l'assistance d'un match de foot ne suffisent pas. Ce n'est pas là-dessus que vous allez gagner de l'argent. C'est avec les loges, c'est avec le système commercial que vous allez installer, c'est avec les représentations de spectacles, c'est avec, etc., les entreprises, les colloques. Bon, c'est le modèle, d'ailleurs, anglais, puisque je me souviens, chaque fois que j'allais voir un match Arsenal, etc., durant notamment les fêtes de fin d'année, il y avait souvent deux ou trois Lyonnais qui étaient là à la Director's Box et qui parlaient avec les gens du business d'Arsenal. Parce que aussi bien Ferguson à Manchester United que Wenger à Arsenal ont réussi ça, justement. Comme alors qu'ils n'étaient pas des financiers, comme les chefs d'entreprise, comme l'est Jean-Michel Aulas. Et puis, tout à l'heure, Charles a parlé du centre de formation. Et ce centre de formation, je vais vous citer un exemple par rapport justement à Paredes, qu'on est allé chercher à 47 millions d'euros. Florian Maurice, ils ont aussi un directeur général formidable, un Toulonnais d'ailleurs, qui a une tête très bien faite. Bon, Vincent Ponceau. Et Florian Maurice, il est allé chercher Fernand Mendy et Ndombele au Havre et à Amiens. À des prix quand même tout à fait, si vous voulez, convenables. Aujourd'hui, ils valent à peu près 50 millions, tous les deux. Tous les deux. Paredes, on est allé le chercher, nous, à 47 millions. Il ne correspond pas tout à fait à ce que voulait Torrel, mais ça ne fait rien. On l'a acheté, on l'est venu. C'est un régulateur, il voulait un 6. Mais enfin, bon, on lui a donné. Là-dessus, ça grince. Je peux vous dire que ça grince. Bon, mais c'est comme ça. Et cet effort-là, Paris ne le fait pas tout à fait. Alors, c'est vrai que compte tenu du niveau auquel faisait allusion Charles Biétry, tout à l'heure, il faut des stars très vite au club, à Paris Saint-Germain. Et pourtant, des stars, il y en a pas mal à l'infirmerie à l'heure actuelle. Et je souhaite qu'il n'y ait pas de nouveaux blessés dans l'effectif de Paris. Parce que sinon, à ce niveau-là, ça va souffrir. Et Torrel va souffrir.
Restons sur Lyon. Le modèle de Lyon, la réussite de Jean-Michel Aulas, Giroud, que vous inspire-t-elle? Je sais que vous avez beaucoup de respect pour lui. Quand vous avez visité le stade, alors qu'il n'était pas encore totalement fini, vous aviez été très impressionné. Vous auriez rêvé de faire ça à Auxerre, non?
Mais on l'a fait. On l'a fait moins bien, mais on l'a fait. On est parti d'un stade de 200 places appartenant à l'association. Et nous, maintenant, il y a 22 000 places, très confortables, que le dernier président en date vient d'ailleurs d'améliorer dans les détails, d'une manière substantielle. Je vais citer un exemple pour le stade de Lyon, puisque je l'ai visité en revenant des sports d'hiver et il ne l'avait pas encore utilisé. Oui. Il y avait, lors du premier niveau, tous les 20 mètres, un siège. Il dit, tiens, au premier rang, devant. Et puis derrière, il y avait le gradin. Il dit, c'est pour quoi faire? Je croyais que c'était pour mettre la police. Pas du tout. C'est pour mettre l'accompagnant d'un homme en fauteuil. On a pensé à asseoir l'accompagnant d'un homme en fauteuil, car un homme en fauteuil, il peut difficilement venir au match tout seul. Mais ça, je n'ai jamais vu ça dans le monde, bien que j'ai assisté à 14 Coupes du Monde. Voilà le détail. Mmh. Ensuite, la gestion des toilettes. C'est l'équivalent d'un hôtel 4 étoiles. On trouve ça nulle part dans les stades, même si ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années.
Les toilettes notamment, absolument, c'est toujours important. Dominique Grimaud, ça a quand même ses limites ce système quand on est un homme omnipotent en fait, comme Jean-Michel Aulas au sein de son club. Ok, la réussite, le système, le chef d'entreprise, mais c'est aussi quelqu'un qui est très présent, peut-être trop présent, et c'est compliqué pour les entraîneurs en place.
Moi, ce qui m'étonne le plus, et je ne vais pas revenir ce qu'ont dit très justement les deux Charles et Guy, grand boss, grand club, grand centre de formation, je dirais même grande académie. C'est plus une académie qu'un centre de formation. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Lyon, l'OL, n'est pas suffisamment apprécié par les Français. On est tous un peu supporters, soit du PSG, soit de l'OM, Marseille, soit des Verts de Saint-Etienne, eu égard à une époque passée. Et on trouve très rarement,
Lille,
le LOSC, mais on trouve très rarement, finalement, de supporters lyonnais.
Et comment là, vous ça pose... expliquez ça, Dominique?
Moi, c'est une question que je me pose. Ouais. Pourquoi et comment? Alors, il y a peut-être une réponse. C'est qu'au plan européen, au plan international, les Lyonnais n'ont jamais accompli ce que peut-être, et ce que sûrement, les Parisiens, les Marseillais et les Stéphanois, à une époque, ont accompli. Donc, je crois que la récompense suprême et méritée pour Jean-Michel Aulas et toute son équipe serait que les Lyonnais, demain, et le plus vite possible, réussissent une épopée européenne. Et qui va savoir...
Il faut éliminer Barcelone pour ça.
Par exemple, avec une date, mais vraiment référence. Et là, peut-être, que le public français, enfin, serait derrière
Est-ce
la
que c'est possible
qui le mérite.
C'est culturel quand même ça, Charles Biétry, non? Les habitudes, on la vit dure quand même, non?
Vous savez, en Bretagne, on ne connaissait pas Saint-Étienne, hein, on savait à peine où c'était. Et puis, un jour, et alors que la télé n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui, un jour, ils ont éliminé le Bayern Munich. Et ce jour-là, c'était à la une de Ouest-France, c'était à la une du Télégramme, qui s'appelait Télégramme de Brest à ce moment-là. Et d'un seul coup, parce qu'il faut une référence, Marseille l'a eu avec toute son épopée, PSG l'a eu avec des matchs contre Real Madrid, par exemple. Lyon n'a pas eu encore ce match-là. Ils ont gagné à Manchester City, ouais, mais c'était en match de poule, si je ne me trompe pas. Donc, si là, ils éliminent Barcelone, je pense que le raisonnement de Dominique est juste. Ils vont rentrer dans le cœur des Français et il faut rentrer dans le cœur des Français. En plus, personne n'ose le dire, moi je peux, Jean-Michel Aulas n'a pas tout fait pour rendre absolument sympathique sa gestion. Jean-Michel Aulas, il s'est battu à mourir pour son club. Et quand on se bat à mort pour son club, forcément, on met un peu de sang un petit peu à côté.
Oui, ça éclabousse un peu parfois. Ouais. Merci en tout cas pour cette première du Studio des Légendes qui reviendra dans un mois. On a passé un très bon moment. Un grand merci à Charles Villeneuve, à Charles Bietri, Jean-Claude Perrin, Dominique Grimaud, Guy Roux pour cette première du Studio des Légendes qui décidément passe trop vite. Même la première est vite passée. On a très envie que ça recommence. Merci à tous. On se retrouve dans un instant pour les infos et puis pour le coup d'envoi de notre match entre Monaco et Lyon.